On pourrait-tu demander aux fabricants de mettre un indice de durabilité sur leurs produits?
C'est une des demandes que nous, la Coalition des associations de consommateurs puis la PIC Côte-Nord, on a justement. C'est dans le fond, comme ça se fait en Europe déjà, où est-ce qu'on voudrait qu'il y ait deux cas? Il y a une cote de réparation qui existe déjà en Europe, c'est-à-dire c'est un numéro de 1 à 10, c'est un score de 1 à 10, 1 étant pratiquement pas réparable, 10 étant très facilement réparable. Okay. Donc, une espèce de cote qui viendrait dire, OK, voici de 1 à 10, le bien que vous achetez, il est réparable ou il ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre chose, ça serait une norme, justement, une cote de durabilité. Et qu'est-ce qu'on veut, nous, la Coalition des associations de consommateurs du Québec? C'est qu'on oblige les fabricants à ce qu'ils indiquent une durée minimum, non, pas vrai, une durée moyenne de vie sur le produit. Pourquoi une durée moyenne? Bien, justement parce que ça devrait permettre aux consommateurs de dire, OK, ces produits-là, ce produit-là, entre autres au niveau des électroménagers, bien, ils devraient en moyenne durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis pourquoi on ne veut pas y aller avec un minimum? C'est que si on tend vers le minimum, bien, on risque de réduire la durabilité des produits. En y allant vers la moyenne, on incite les fabricants à faire des produits qui vont être dans la moyenne. C'est ça le but, pour que les produits durent beaucoup plus longtemps, que quand ils sont brisés, qu'on puisse les réparer pour éviter qu'on les mette au rebut.
Et ça, lors du choix de l'achat, ça peut devenir intéressant parce que là, tu peux avoir deux modèles. Un modèle qui coûte moins cher, mais là, tu vas pouvoir comparer. Il coûte moins cher, mais par contre, il va durer moins longtemps.
Moins longtemps.
Alors, ça peut devenir un outil magasinal.
Et peut-être moins réparable aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'avec ces deux cotes-là, ça permettra aux consommateurs, justement, de se faire une bonne idée. Oui, je vais peut-être payer un peu plus cher, mais le produit va me durer plus longtemps. Puis le produit, même s'il brise, après la fin de la garantie du fabricant...
Ouais, je le savais.
Ça va durer, justement, ça va être réparable. Je le savais, puis ça va informer le consommateur. Par contre, c'est beau d'informer le consommateur, mais le but, c'est pas juste d'informer le consommateur, c'est d'inciter vraiment les fabricants à produire des produits de qualité qui vont durer longtemps. Parce qu'on en a besoin au niveau environnemental, puis aussi au niveau économique. C'est un coût, là. Ouais, en moyenne, au Canada, on met environ $1 million à chaque année dans l'achat d'appareils ménagers, électroménagers, électroniques, ces choses-là.
Ça ressemble à ça.
Oui, en moyenne, par année, la moyenne canadienne, c'est environ $1 million à chaque année. Justement, si à chaque année, on en met un peu moins, bien, ça sera une économie. Puis en même temps aussi, si on incite à la réparation, bien, ça va créer, au niveau économique, la reprise des services de réparateurs qu'on a de proximité, là.
Oui. En espérant que si ça arrive, on souhaite qu'il n'y aura pas de pénurie de main-d'œuvre du côté des réparateurs. Ça serait une autre problématique.
Ça serait une autre problématique, possiblement.
Mais oui. M. Boudreau, il y a un magazine qui s'appelle Protégez-vous. Moi, je me réfère souvent à ça. Et puis souvent, on a des sondages en rapport à ça, là. Oui, échantillonnage, l'appareil peut durer, comparé à un autre laveuse, exemple, là, qui va durer moins longtemps. C'est-tu fiable, ça?
Oui, c'est très fiable. Okay. Les études de Protégez-vous sont très, très fiables. C'est une revue qui origine de l'Office de la protection du consommateur, qui est maintenant rendue autonome, là, indépendante. Mais oui, les études qu'ils font sont très fiables. Puis c'est pour ça que c'est bon d'avoir des études, justement, puis des normes, des normes qui soient fixées, non pas par l'industrie elle-même, parce qu'en soi, on n'a pas de contrôle sur la méthodologie utilisée pour qualifier ou tester la durée de vie. C'est pour ça que nous, ce qu'on réclame, c'est que ce soit justement fait par un organisme gouvernemental. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça. Puis, vu que c'est beaucoup dans l'actualité de ce temps-ci, la Coalition puis la PIC Côte-Nord, le 25 avril dernier, on a fait un appel à la population, une activité de mobilisation pour écrire des courriels assez amicales à notre ministre de la Justice pour lui rappeler que c'était dans le débat public puis qu'il y avait un projet de loi qui a été déposé, mais on voulait que le gouvernement accélère l'adoption éventuellement de ce projet-là, mais qu'au moins qu'on en discute parce que ça fait 3 ans qu'il se passe absolument rien.
Le silence radio, on n'en parle plus.
Oui, puis je suis très heureux de la réaction, de la réponse des consommateurs de la Côte-Nord qu'on a eue. On est allé chercher à peu près 35% des répondants à travers la province du Québec, parce que c'est une action pan-québécoise. 35% des consommateurs venaient de Bécomo qui ont envoyé des courriels. C'est quand même... Oui, j'étais assez heureux de la réponse des consommateurs qui sont impliqués. Puis ça a quand même eu des résultats intéressants parce que... Pourquoi on a fait ça le 25 avril? C'est parce que le 26 avril, le ministre de la Justice était à l'étude des crédits avec l'Office de protection du consommateur. Et c'est pour ça qu'on les a bombardés de courriels. Ça a été discuté durant toute la période de l'étude des crédits, c'est-à-dire c'est ça qui détermine les budgets de l'Office avec le dernier budget. On n'a parlé que d'obsolescence, que de réparabilité, que de durabilité.
C'est donc un enjeu majeur.
Ça a été justement un enjeu majeur. Puis en plus, c'est qu'on a été invité à participer à une rencontre avec le cabinet du ministre jeudi passé, le 4 mai, à laquelle j'ai participé justement... À la demande du personnel du cabinet du ministre. Il y avait son adjointe parlementaire, son principal conseiller politique qui était là. Puis il voulait voir c'était quoi notre position, qu'est-ce qu'on demandait justement dans un éventuel projet de loi. Donc, il semble y avoir un intérêt de la part du gouvernement pour activer le processus, et on espère que ça va vraiment servir là, à réduire la quantité de déchets qu'on produit puis à la surconsommation de ces appareils-là.
Monsieur Boudreau, oui. Est-ce qu'il existe des études sur quel type d'appareils qu'on utilise dans la vie de tous les jours sont les plus susceptibles de briser avant terme? Est-ce que ce sont les électroménagers, l'électronique, la mécanique automobile?
Probablement qu'il doit y avoir des études, mais je ne suis pas au courant s'il y en a exactement. Il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'études qui sont faites sur les électroménagers ou ce qu'on appelle maintenant les appareils domestiques qui englobent oui, les électroménagers traditionnels, mais ça englobe maintenant ce qui est prévu dans la protection du consommateur, la loi. Les ordinateurs, les appareils audio-vidéo, les thermopompes, le four à micro-ondes, ce sont ce genre d'appareils-là qui sont déjà plus suivis au niveau légal.
Des appareils qu'à peu près tout le monde a. Fait que c'est pour ça que ça représente une facture écologique
énorme.
C'est des besoins essentiels, en quelque sorte.
Puis il faut sortir d'un modèle, comme je disais souvent, c'est qu'on est habitué dans un modèle économique où est-ce qu'on achète un appareil, on l'utilise pendant le moins longtemps possible, puis on le remplace par un nouvel appareil. Mais il faut sortir de ce cycle-là parce qu'actuellement, au niveau économique, ce n'est plus rentable. Il faut savoir que l'obsolescence a été mise en place, discutée en 1932 pour se sortir de la Grande Dépression des années 20. C'est le concept qui avait été mis en disant on va faire de l'obsolescence pour se sortir de la dépression pour repartir l'économie.
Oh,
ça vient de là, dans les années 30, d'un monsieur London. mais on n'est plus dans cette situation-là. On surconsomme au niveau mondial. On est de plus en plus de nombreux consommateurs qui surconsomment, mais là, la planète ne peut plus suivre.
OK. Wow. Parce que c'est évident que mettre au vidange un réfrigérateur ou une pièce de réfrigérateur, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, exactement. Puis c'est pour ça. Le but, c'est peut-être de jeter une pièce et de conserver l'ensemble de l'appareil puis de le conserver pendant des années de temps.
C'est assez rare qu'on change de réfrigérateur à moins qu'il aille mal. Parce qu'il y a quand même le marché du seconde main qui fonctionne beaucoup avec les électroménagers, et à condition qu'il fonctionne bien, à moins qu'il y ait un rond de poil qui ne fonctionne pas sur les quatre. Là. Ça, c'est mineur.
C'est pour ça. Tant qu'on a la disponibilité des pièces, le marché du seconde main va pouvoir exister, continuer, puis ça va éviter qu'on mette... Toutes ces alternatives-là sont bonnes, mais pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait des pièces disponibles.
D'accord.
Et on devrait faire comme dans l'automobile. Il y a plusieurs pièces disponibles, plusieurs compagnies qui font les pièces de remplacement.
C'est une bonne idée.
Ouais, une bonne idée. OK, on met ça en branle. On va aller prendre un café, puis on va se partir une usine de pièces de remplacement pour les électros. Hey, Monsieur Boudreau, merci infiniment d'avoir été là ce matin. Encore une fois, un sujet très intéressant, puis on aurait pu en parler de long en large. Moi, écoute, j'avais plein d'affaires à dire.
Des exemples.
On se reparle encore une fois dans un mois?
Oui, dans un mois.
Pour la chronique de la Pique Côte-Nord, c'était M. Frédéric Boudreau ce matin.
Merci.
Wow. Sens-tu qu'on a pas mal épluché tout le sujet?